Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Quand on est chrétien, l'on avance sur le chemin de la foi, parfois un cas, avec souvent dans le fond du cœur des questions non résolues. Exemple ce matin avec cette phrase tirée de l'Épître aux Hébreux, « Jésus s'est offert lui-même à Dieu ». Drôle de Dieu en effet, qui pour se réconcilier avec les hommes aurait besoin de sacrifier son propre fils. Un point sur lequel s'est arrêté mon invité de ce matin qui, à force de chercher, est venu à trouver que le coupable, d'une certaine manière, serait ce passage de l'Écriture, l'Épître aux Hébreux, qui aurait installé au fil des siècles une vision déformée du sacrifice de Jésus jusqu'à tordre l'image que nous avons bien souvent de Dieu. Explication. L'Épître aux Hébreux au regard de l'Évangile, c'est donc le thème ambitieux de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Martin Pochon. Vous êtes religieux jésuite, prêtre et bibliste, et auteur donc d'un ouvrage du même nom, l'Épître aux Hébreux, je vais y arriver, au regard des Évangiles, paru aux éditions du Cerf dans la collection Lectio Divina. Bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation pour présenter ce livre.
Avec joie. Alors c'est un livre, il faut le dire, consistant. Je ne donnerai pas le nombre de pages, mais il y en a quelques centaines. C'est un livre à thèse, publié donc aux éditions du Cerf. On peut préciser donc les éditions du Cerf, c'est les éditions tenues par les Dominicains, Jésus de chez les Dominicains. Et puis vous me disiez juste avant l'émission que c'est une maison d'édition de référence pour tout le travail d'exégèse ou historico-critique aujourd'hui en France. Alors cet Épître aux Hébreux, il vous est resté un peu d'une certaine manière en travers de la gorge. Avant qu'on le présente, l'Épître aux Hébreux, commençons par le début. Si vous deviez le présenter, c'est donc un passage qui est dans le Nouveau Testament, écrit en grec, si j'ai bien compris. Pour commencer, on ne connaît pas le rédacteur, c'est ça ?
Non, on ne connaît pas le rédacteur. On dit jamais lettre de Saint Paul aux Hébreux. On dit « lettre aux Hébreux ». Et d'ailleurs, le classement de ce document dans le Nouveau Testament est assez révélateur. C'est-à-dire que toutes les lettres de Paul, on les classe par ordre décroissant jusqu'à l'Épître à Philémon qui comporte un seul chapitre, 22 versets, un feuillet en quelque sorte. Puis juste après, à la fin, on a ce gros morceau qui est la lettre aux Hébreux. On n'a jamais su de qui elle était. Origène hésitait sur Barnabé, sur d'autres. De plus récemment, on l'attribue plutôt à Apollos.
Apollos. Ouais. Alors j'ai cru comprendre qu'elle avait été écrite donc à la fin du 1er siècle, donc entre 60 et 90, c'est ça ?
Avant 70, c'est-à-dire avant la destruction du temple. Parce que si le temple avait été détruit, on y ferait allusion, puisque l'auteur cherche à montrer que les rituels anciens des sacrifices au temple sont périmés et que le Christ a accompli définitivement tous ces rituels. Donc c'est un texte qui a fait référence, mais qui n'est entré dans le canon des Écritures qu'au milieu du IVe siècle. Vous voyez que c'est le dernier texte à avoir été intégré dans la liste des Écritures officielles du Nouveau Testament. Au IVe siècle, c'est-à-dire l'époque de Constantin, l'époque de Théodose, et puis aussi l'époque d'Ambroise et l'époque de Saint Augustin.
Alors on peut lire aussi que c'est un des plus anciens traités de christologie. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu quel est son propos quelque part à cet Épître aux Hébreux ?
Oui, son propos c'est d'expliquer. Alors c'est un disciple de Paul qui a dû écrire ça. D'ailleurs, Apollos, il en est question dans la première lettre aux Corinthiens, en disant certains se réclament de Céphas, d'autres de Paul, d'autres d'Apollos. Non, vous appartenez tous à Dieu, au Christ, vous appartenez tous au Christ. Donc c'est quelqu'un de proche, dans les Actes des Apôtres aussi, on parle d'Apollos avec Priscille et Aquila. C'est quelqu'un qui enseigne, qui connaît bien les Écritures, qui est grec d'origine, qui est très fort pour convaincre les Juifs que vraiment le Christ est le Messie. Vous voyez. Donc on a quelqu'un qui est proche de Paul et il cherche à expliquer une affirmation de Paul, c'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Alors comment comprendre ça ? Alors lui, ma foi, féru des Écritures, il écrit dans un très bon grec, c'est pas le grec de Paul, pendant longtemps, on s'est demandé si ce n'était pas un secrétaire de Paul qui aurait amélioré le style de Paul, vous voyez. Aujourd'hui, on a abandonné cette piste, on sait que c'est un autre auteur, même s'il reprend certains vocabulaires de Paul et des thèmes de Paul, il a une façon de traiter de la mort du Christ.
Qu'est-ce qu'il cherche à expliquer du coup aux Hébreux ?
Eh bien, il cherche à leur expliquer que le Christ a accompli les sacrifices pour le péché de la première alliance. Donc, dans la première alliance, pour qu'il y ait pardon des péchés, on offrait au temple des, on offrait au temple des sacrifices. Et puis, en plus, il y avait cette grande fête récapitulative, une fois par an, du grand pardon, du Yom Kippour. Et là, il y avait vraiment tous les types d'offrandes d'animaux avec, vous savez, les deux boucs, le bouc émissaire, et puis qu'on envoyait au désert, et puis l'autre bouc. Bon, bref, tout un rituel qui permettait finalement de restaurer la relation avec Dieu et de permettre à Dieu de s'approcher. Parce qu'on avait fait tous les rites de purification, puis c'était le grand prêtre qui s'approchait. Donc il va chercher, il va puiser, c'est naturel au fond. Comment expliquer que le Christ est mort pour nos péchés ? Il va chercher dans l'Écriture la fête qui par laquelle on pardonne les péchés.
Alors Martin Pongeon y reviendra, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui a coincé entre guillemets ? Est-ce que vous dites que dans votre livre c'est le fruit d'un long travail, d'une longue réflexion, qu'est-ce qui vous est resté, si je puis me permettre d'être aussi trivial, un peu en travers de la gorge, et qui a motivé le fond de cette étude ?
Eh bien, c'est quelque chose d'assez massif. Dans la fête du Yom Kippour, qui sert de grille de référence à l'auteur, on y reviendra, mais c'est vrai qu'il transpose et qu'il modifie considérablement le rituel, puisqu'on sort du rituel avec le Christ pour aller dans l'existentiel, c'est-à-dire c'est sa vie elle-même qui pardonne les péchés et qui est en soi un sacrifice pour cet auteur. Voilà. Et il a pris le rituel du Yom Kippour où on offre à Dieu. On offre à Dieu, on sacrifie des animaux, holocauste, on les fait monter en holocauste, un repas d'hommage offert à la divinité, vous voyez. On purifie tous les éléments du temple avec du sang, le sang des animaux. Bon. Et donc c'est un mouvement ascendant et qui permet au grand prêtre de franchir le dernier voile qui sépare du Saint des Saints, enfin qui sépare du lieu du propitiatoire, du couvercle de l'Arche d'Alliance où Dieu s'approche. Bon. Or, ça c'est un mouvement strictement ascendant, on va dire, et le Christ, lui, a choisi quoi ? Bon. Il a choisi de vivre sa mort lors de la fête de la Pâque et de l'associer à la fête de la Pâque. Il a longtemps désiré vivre cette Pâque avec ses disciples, nous dit Luc. Et lors de la scène, qui est son testament spirituel en quelque sorte, lors de la scène, qui récapitule un peu le sens de sa vie et de sa mort qu'il va vivre, eh bien, quel est le message ? Eh bien, qu'il est le pain vivant descendu du ciel pour nourrir les hommes. Lors de la scène, il y a toujours ses actes, il prend le pain, il prononce la bénédiction, et la bénédiction, c'est la bénédiction juive de la Pâque, qu'on connaît, puisqu'on l'a intégrée dans la liturgie de Vatican II. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, donc on reconnaît ce Dieu qui nous donne, ce mouvement descendant, et il rompt le pain, et il le donne à qui ? Il le donne à Pierre, il le donne à Judas, il le donne à ses disciples, digne ou pas digne. Il est bien précisé que Pierre va le renier quand le coq aura chanté trois fois et que Judas a déjà commencé à conclure sa trahison.
Alors Martin Pochon, juste...
Donc c'est un don de Dieu aux hommes et non pas une offrande des hommes à
mais
Dieu.
Alors, pour faire écho, pardon, c'est plutôt à votre livre qu'il faut faire écho, mais à mon introduction, aussi, dans la foi chrétienne, on a l'impression qu'on s'habitue à tenir des contradictions apparentes. Et là, en l'occurrence, alors c'est juste le propos introductif, mais à la fois de regarder, d'assister à la messe à cette scène et en même temps au sacrifice du Fils sur l'autel.
Oui, oui, oui.
Vous êtes en train de nous dire que
c'est-à-dire c'est-à-dire que pendant des siècles, on a développé progressivement une théologie de l'offrande du Fils à son Père et qui satisfait le Père, qui, grâce à l'obéissance du Fils, ma foi, nous pardonne. Bon. Et que, ma foi, on pourrait dire que tout ce qui est renouveau biblique, tout ce qui est réhabilitation, redécouverte des pères de l'Église et tout, a conduit sur le chemin de redonner la priorité à la Pâque et à la scène, vous voyez. Cette inversion, on est presque arrivé à certaines époques à une inversion du sens de la scène. Vous voyez, la scène telle que je viens d'en parler, c'est reconnaître que le Christ nous est donné par Dieu, qu'il se donne à ses disciples au nom du Père. Or, dans le Concile de Trente, lors de la 22e session, lorsqu'on parle du Saint Sacrifice de la Messe, il est dit, à propos de la scène, et non pas même de la Messe, mais de la scène, c'est-à-dire du récit évangélique, lors de la scène, Jésus a offert son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, à Dieu son Père. Or, dans la scène, il n'est jamais question d'une offrande au Père, puisque c'est le Fils qui, se recevant du Père, se donne aux hommes. Donc on a eu cette tension-là, et la réforme liturgique, et puis ma foi, n'ose pas, je crois, hein, c'est un point de vue qui peut être discuté, mais je crois qu'on n'ose pas reconnaître qu'on s'était peut-être fourvoyé dans cette lecture de la scène, et on essaye de tenir les deux, pour ne pas rogner ce qui a été affirmé au Concile de Trente. Alors, mais résultat, on n'arrive pas à se dépatouiller avec la scission, le schisme de Mgr Lefebvre. Pourquoi ? Parce qu'eux s'appuient toujours sur le Concile de Trente.
Alors, Martin Pochon, ça va loin parce que, on ne veut pas choquer les auditeurs, hein, c'est un livre et c'est une thèse, vous la présentez et puis vous nous la partagez aujourd'hui, un travail de recherche. Mais voilà, c'est un point de vue. Ça va loin parce que dans votre propos introductif aussi, vous commencez par ça, en fait, vous commencez par citer un certain nombre d'ouvrages qui, selon vous, depuis l'après-guerre, auraient contribué à remettre la résurrection à la première place. Dans la théologie chrétienne, au dépens peut-être d'une insistance justement sur la souffrance et sur la passion. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le lien que vous faites justement avec la résurrection ? On finit quoi par insister sur ce sur quoi il ne faut pas insister, voire même avoir une mauvaise image de Dieu ?
Oui, voilà, oui, c'est un peu tout ça, oui. C'est-à-dire que quand on insiste sur la passion comme ce qui est directement une rançon versée au Père, alors que si on regarde les évangiles, la rançon n'est pas versée au Père, hein. Dans Marc 10, 35, 45, on voit que la rançon, elle est versée à ceux qui gouvernent, aux puissants, qui gouvernent par la peur de la mort. Et c'est sûr que la résurrection vient ôter ce moyen de contrainte, de terreur, qui était l'arme des puissants. Puisque s'il y a résurrection, à ce moment-là, la mort devient un passage, une Pâque, hein. Christ a choisi la Pâque, je reviens là-dessus, en offrant sa vie aux hommes et en livrant sa vie aux mains des violents, eh bien le Christ, par sa résurrection, ôte des mains des puissants leurs moyens de contrainte. Il n'y a plus la peur de la mort. Et on le verra avec les apôtres. Les apôtres vont tous subir le martyre. Et Pierre, le témoignage de Pierre dans les Actes des Apôtres est tout à fait remarquable. Lui qui n'avait pas osé affirmer sa foi devant une servante du palais, il va aller s'adresser à la foule en disant à ceux qui avaient participé à la mort du Christ, celui que vous avez tué, il s'adresse à eux. Eh bien, j'ai la grande joie de vous dire qu'il est ressuscité. J'ai une bonne nouvelle à vous dire, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'a plus peur d'être arrêté, condamné, voilà. Et pour Paul, ça sera pareil. Et pour Jacques et Jean, ça sera pareil. Et tous, voilà.
Alors, néanmoins, il reste des passages
dans la résurrection
dans la messe.
Le visage de la mort.
Il reste des passages dans le canon de la messe, justement, qui continuent de présenter ce saint sacrifice, c'est ça ?
Eh bien, il y a eu une réforme liturgique très, très profonde. Moi, j'ai eu la joie et le privilège presque de rencontrer tel ou tel acteur de cette réforme liturgique.
Donc au moment du Concile Vatican II.
Qui a eu lieu juste après le Concile Vatican II, à la demande de Paul VI. Et je pense au père Gélineau, qui a été un grand liturge, un auteur de musique sacrée, et il m'a dit, on a été très attentif à cette question-là, du sens de la mort du Christ. Et de fait, on voit bien que dans la préface de la prière eucharistique numéro 4, les préambules à la consécration aussi, que c'est vraiment Dieu qui vient au secours de son peuple, qui, alliance après alliance, essaye de le faire grandir et de le faire sortir de son péché, quoi. Et puis on a la consécration, et juste après, on retrouve, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde, quoi. Et alors, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit, oui, mais ça, on me l'a imposé. On voit bien qu'il y a eu des tiraillements, hein, et qu'au fond, cette réforme nous a laissé, pour moi, au milieu du gué, au milieu du gué. Et aujourd'hui, on voit que certains ont tendance à revenir en arrière. Moi, je le lis comme ça. Et alors que pour moi, il faudrait achever de se laisser convertir par les évangiles et aller sur l'autre rive.
Et donc, on va avancer dans votre ouvrage en se plongeant un petit peu plus dans l'Épître aux Hébreux. Et à votre avis, pourquoi c'est une mauvaise lecture ou interprétation? Je rappelle le titre de votre livre, L'Épître aux Hébreux au regard des évangiles, paru aux éditions du Cerf dans la collection Lectio Divina.
Emmanuel Pella.
L'Épître aux Hébreux au regard des évangiles, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Martin Pochon, religieux jésuite, prêtre et bibliste et auteur donc d'un ouvrage du même nom paru aux éditions d'Isère dans la collection Lectio Divina. Quand on s'en plonge dans votre livre, vous arrêtez donc sur trois points dans l'Épître aux Hébreux. Vous nous parlez de Melchisédek ou de la mention qui en est faite et de son interprétation, du psaume 39 et du choix donc de la fête de Kippour et non de Pâques dans l'Épître aux Hébreux. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Commençons par Melchisédek. Avant que vous nous expliquiez quelle est votre thèse et à votre avis quelle est la mauvaise lecture peut-être qui en était faite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui était déjà Melchisédek? Rappelez-nous, Martin Pochon.
Oui, alors mauvaise lecture, je dirais plutôt une lecture tendancieuse. Voilà. Alors Melchisédek, c'est une figure qui apparaît dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, de façon très brève, il y a trois versets. Je vais peut-être les lire. Ils sont à situer dans le cadre des batailles que mène Abraham pour récupérer Lot et sa famille. Vous savez qu'ils ont été capturés, et donc Abraham mène des batailles contre quatre grands rois pour récupérer son neveu Lot. Alors, il est dit, verset 17, chapitre 14, « Quand Abraham revint après avoir battu Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé. » Et puis là, vous avez justement un ajout, les exégètes pensent que c'est un ajout, parce que si on l'enlève, ça marche très bien le récit. Alors cet ajout dit « Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin, il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui créa le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » Le roi de Sodome, on revient cette fois-ci au récit initial, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens avec toi. » Mais Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main devant Yahvé, le Dieu Très-Haut qui créa le ciel et la terre, ni un fil, ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien, etc. »
Alors, il faut dire que Melchisédek aussi est cité pendant la messe. Pouvez-vous redire la mention qui en est faite et pourquoi il est cité dans la messe?
Parce qu'il est parmi ceux qui ont offert un sacrifice d'agréable odeur, comme le sacrifice d'Abel, Melchisédek, ton grand prêtre, etc. Vous voyez? Et alors, il y a une référence à Genèse. À Genèse 14. Pourquoi il y a cette référence dans l'Épître aux Hébreux?
Alors juste, il y a un parallèle donc, pendant la messe entre Jésus et Melchisédek.
Oui, c'est ça, parce que l'Épître aux Hébreux cite le psaume 110 qui dit qu'il est à la fois que le Messie, Dieu en fait le serment, il est prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, de façon très habile, va aller puiser dans cette figure de Melchisédek pour dire que Jésus, il était prêtre, même grand prêtre, mais ça c'est ajouté, il était prêtre sans être de la tribu de Lévi. Parce qu'à l'époque de Jésus, pour être prêtre, il fallait être de la tribu de Lévi. Or, Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, il était fils de David, il était de la tribu de Juda. Donc comment expliquer qu'on puisse le penser qu'il était grand prêtre, capable d'offrir un sacrifice pour le pardon des péchés?
D'où la référence à Melchisédek.
D'où la référence à Melchisédek, puisqu'à l'époque de Melchisédek, il n'y avait pas encore tribu de Lévi. Et la Bible affirme qu'il était prêtre du Dieu très haut.
Alors, quelle est la mauvaise, moi je dis lecture, mais vous dites donc tendancieuse, bref, je le dis de manière peut-être maladroite, mais quelle est la mauvaise lecture que fait l'Épître aux Hébreux de Melchisédek ou le mauvais parallèle?
Il va prendre de belles choses dans la citation. Il va dire, c'est un roi de justice, c'est un roi de paix. Donc, il prend de belles choses. Alors, c'est vrai qu'il en rajoute un peu, comme il n'est pas question de la généalogie. Des ascendants de Melchisédek dans le texte, qui est très bref, il dit oui, il n'a ni père ni mère, au fond, ça renvoie à cette origine mystérieuse du Christ. Donc il va exploiter des aspects qui ne sont pas développés dans le. Il va dire qu'il a soumis aussi, il a soumis Abraham à la dîme, alors qu'en fait, Abraham lui propose de lui verser la dîme, sachant que par ailleurs, il verse tout le reste au roi de Sodome. Et le roi de Sodome n'est pas évoqué dans le, dans le, dans l'Épître aux Hébreux, la Bible.
Vous faites aussi cette mention, Melchisédek n'offre aucun sacrifice sanglant.
Ben non, puisqu'il apporte le pain et le vin. Vous voyez, c'est même quelque chose de très original, c'est-à-dire que c'est un ajout vraisemblablement d'une période tardive où on a une critique des sacrifices sanglants. Et donc, cette référence à Melchisédek aurait très bien convenu pour introduire la scène, puisque le Christ, lui, a choisi le pain et le vin, hein, vous voyez. Et Melchisédek est quelqu'un qui, au nom du Dieu très haut, va permettre une entente entre des adversaires potentiels, entre le roi de Sodome, bon, pas la peine de développer cette figure du roi de Sodome, hein, et puis Abraham, qui est le patriarche fondateur de la foi, voilà.
Alors, si je résume, et je vous laisse compléter ce résumé, vous nous dites qu'on aurait en partie donc, une mauvaise image du sacrifice du Christ et donc quelque part du Père, parce qu'on hériterait donc, d'une lecture de l'Épître aux Hébreux qui ne serait pas juste, en tout cas que l'Épître aux Hébreux, lui, ne serait pas complètement juste. Et leur première raison, ça serait donc une mauvaise interprétation de la figure de Melchisédek, c'est bien ça?
Ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris tous les caractères originaux de la figure de Melchisédek tel qu'il est présenté dans le livre de la Genèse. Mais, mauvaise lecture. En même temps, je crois que l'Épître aux Hébreux, il faut lui reconnaître ses qualités. Elle a beaucoup, beaucoup développé l'attitude d'offrande. Et je crois que développer et insister sur l'attitude d'offrande, c'est quelque chose de très important et d'incontournable. Le Christ, il a fait la volonté du Père. Hein, ça, les évangiles le disent en permanence. Gethsémani le redit, non pas ma volonté, mais la tienne, etc. Il a fait la volonté du Père. Qu'est-ce que ça suppose, faire la volonté de quelqu'un? Ça veut dire qu'il faut... il faut être tout ouïe, il faut être totalement disposé, totalement ouvert à l'autre pour entendre ce qu'il veut. Donc il y a bien une attitude de remise de soi pour entendre ce que l'autre veut, et donc il y a bien une offrande de soi. Donc ce côté-là, qui est développé énormément dans l'Épître aux Hébreux, mais de façon trop exclusive, est très, très importante. Mais une fois qu'on s'est offert, bien, il s'agit d'entendre ce que l'autre dit et ce que l'autre veut. Et qu'est-ce qu'il veut, le Père? Eh bien, qu'on manifeste sa miséricorde. Le Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs, pour dire la miséricorde du Père. Il est venu se mettre au service des hommes, au nom du Père, vous voyez. Enfin, et donc, l'important, l'attitude d'offrande est incontournable, elle est première, mais elle n'est pas le terme, elle n'est pas la fin. La fin, c'est d'entendre ce que Dieu veut et de le mettre en œuvre, et d'aller jusqu'à l'amour des ennemis éventuellement.
Alors ensuite, vous insistez donc sur le psaume 39, vous dites qu'il a nourri donc cette épître aux Hébreux, mais que là aussi, il y a selon vous, des choses qui ne sont pas justes. Alors dites-nous pour commencer, en quoi ce psaume, que l'on peut citer en partie, peut-être pas lire in extenso, a nourri l'épître aux Hébreux?
C'est un psaume très très beau qui est très connu, au moins un certain passage est très connu. Hein. L'Épître aux Hébreux le cite de façon assez précise au chapitre 10. En entrant dans le monde, le Christ dit « Sacrifice et offrande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifice pour le péché. » Tu n'as pas trouvé bon, alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il a été écrit au sujet de moi pour faire ta volonté. Donc on voit là qu'il y a une reprise de ce psaume 39, hein, 39 c'est la numérotation grecque, hein, et en même temps, quand il le reprend, il le modifie très légèrement. Si on regarde ce psaume 39, il était dit... Holocauste et sacrifice pour le péché ne t'ont pas plu, alors j'ai dit voici je viens, dans le rouleau du livre il a été écrit au sujet de moi pour faire ta volonté. Et il était écrit dans le psaume 39, tu n'en exigeais pas de sacrifice, tu n'en exigeais pas. Hein?
Et ça vous dites que mention n'en est pas faite dans l'Épître aux Hébreux, c'est ça?
Dans l'Épître aux Hébreux, il enlève le terme tu n'en exigeais pas pour mettre à la place ils ne t'ont pas plu. Et il insiste pour dans la reprise synthétique qu'il fait du psaume pour dire et pourtant ces sacrifices sont prescrits par la loi par le Lévitique. Enfin, bon. Alors.
Donc cet auteur qui, donc Apollos, c'est ça, qui,
disons Apollos,
voilà, qui cherchait à expliquer aux Hébreux en quoi le Christ était venu, on va dire, les sauver et sauver les hommes.
Oui.
Donc prend ce psaume comme illustration, mais le tord.
Légèrement, il l'infléchit, oui, parce qu'il dit, ben voilà, les sacrifices n'ont pas plu à Dieu, alors que pourtant, ils sont prescrits par la loi, et ça, dans le psaume, c'est pas marqué. Hein, bon. Et donc, s'ils ont pas, ce qui n'a pas plu à Dieu, c'est la matière de l'offrande. Et donc, le Christ, lui, va donner à ses sacrifices une matière qui va plaire à Dieu, c'est-à-dire lui-même, une offrande de lui-même.
Ça, c'est la lecture de l'Épître aux Hébreux.
Et
là, vous dites que
vous
n'est pas juste.
Cet aspect d'offrande, c'est beau, sauf qu'il va chosifier un peu la démarche, et finalement, il va faire de la croix une offrande au Père, directe au Père, hein, on le verra au centre de l'Épître, hein, une offrande directe au Père, alors que cette offrande est la condition pour entendre ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément qu'on s'offre dans la mort à lui, c'est qu'on pratique la justice, qu'on pratique la louange, qu'on reconnaisse tous les dons que l'on reçoit et tout. Et c'est ce que dit d'ailleurs le psaume 39-40. Hein, le psaume 39-40, une fois qu'il dit « tu n'as pas exigé de sacrifice », eh bien, il va développer tout ce qui est... D'abord, il commence par reconnaître tout ce que Dieu donne de sa propre initiative. Tu nous as fait sortir d'Égypte, tu as écouté notre cri, tu nous as tiré du gouffre tumultueux, de la vase, tu as dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Vous voyez, il y a toute une reconnaissance du don de Dieu. Ensuite, tu n'exiges pas de sacrifice, alors du coup... Eh bien, du coup, je vais annoncer la justice, ta justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur, j'ai dit ta fidélité. Vous voyez qu'à ce moment-là, ce qui vient plaire à Dieu, c'est de reconnaître le don qu'il nous fait et de l'annoncer à la grande assemblée. Autrement dit, c'est le murmure des lèvres et la présence à la charité dans la grande assemblée.
Troisième point sur lequel vous vous arrêtez, c'est que donc l'Épître aux Hébreux, vous avez commencé à en parler, donc insiste ou fait un parallèle avec la fête de Yom Kippour et non la Pâque. Et vous dites que vous laissez entendre que c'est pas juste. Alors on peut peut-être repréciser ce qu'est Yom Kippour, donc cette fête du grand pardon pour les Juifs. Redites-nous en quelques mots ce que c'était à l'époque du Christ peut-être et à l'époque surtout de cet auteur,
ben,
Apollos.
Le grand pardon, c'est une fête majeure du culte juif de l'époque. Et l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, va dire qu'elle avait un faste important. Hein. Au début du chapitre 9,
c'est le jour où le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints du Temple, c'est ça ?
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la première alliance avait donc un rituel pour le culte et un temple terrestre. Et en effet, une tente fut installée, une première tente.
Là, vous citez l'Épître aux Hébreux.
Le Saint, voilà. Et l'Épître aux Hébreux tient à rappeler ce cadre-là où on franchit des seuils jusqu'à s'approcher de Dieu en fonction d'une purification progressive. Le grand prêtre, lors du Yom Kippour, il doit se laver entièrement avant de franchir le deuxième voile. Il doit offrir des sacrifices pour ses péchés, pour les péchés du peuple, vous voyez, dans un décorum fastueux et qui est très beau, voilà. Et il revêt des vêtements purs, de lin, etc. Quoi. Bon. Et l'auteur des Hébreux va dire, le Christ, lui, il a franchi tous ses seuils, et il a franchi notamment le dernier voile qu'il sépare de Dieu, parce que justement, il s'est offert personnellement, existentiellement. C'est pas à travers un rite qu'on reproduit année après année et qui finalement, la preuve qui marche pas, c'est qu'on est obligé de le répéter sans arrêt année après année et que finalement, ces rites ne font que rappeler les péchés et non pas sortir du péché, quoi. Enfin, ça n'empêche pas les hommes de pécher, quoi. Bon. Et alors que le Christ, supplice offert une fois pour toutes. La preuve, c'est qu'il est mort. Et donc après, une fois qu'il est mort, il ne pouvait plus offrir de sacrifice. Il s'est offert lui-même. Et puis Dieu l'a élevé. Et donc, il est allé s'asseoir à la droite de la divinité, ayant accompli sa mission, qui est le pardon des péchés.
Mais alors là, ce que vous dites, c'est ce en quoi on croit. On lit le catéchisme de l'Église catholique, le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Et puis on peut trouver d'autres passages. Ce sacrifice unique, il l'achève et dépasse tous les sacrifices. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lecture est-ce qu'il y a dans ce parallèle n'est pas juste. En fait, il aurait fallu, selon vous, non pas citer Yom Kippour, mais la Pâque, c'est ça?
C'est-à-dire que si on fait de la mort du Christ une offrande directe au Père, on oublie quelque chose, deux aspects. D'une part, c'est que l'offrande de soi, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il faut non seulement s'offrir, mais il faut entendre en quoi consiste la volonté de celui à qui on s'offre.
Ça, vous nous l'avez
pour
dit.
La réaliser. C'est majeur. La deuxième... je crois que c'est ça qui est vraiment le fond. Alors que dans la Pâque, vous voyez que le Christ... Il écoute la volonté du Père. Mais la volonté du Père, c'est qu'il soit la nourriture pour les hommes. Et quand il...
Donc selon vous, dans l'Épître aux Hébreux, il aurait fallu que l'auteur choisisse le parallèle avec la Pâque juive, c'est ça?
Écoutez...
Qu'est-ce que ça aurait changé?
Ça aurait changé le sens de l'offrande.
C'est-à-dire
puisque, dans
rappeler
la Pâque,
un peu ce qu'était la Pâque juive,
peut-être rappeler la Pâque juive. C'est très original. Lors de la Pâque, c'est Jésus qui, ayant écouté la souffrance de son peuple en servitude en Égypte, prescrit à Moïse de manger une tête de petit bétail et tout, les reins saints, les bâtons aux pieds, les sandales, bâtons à la main, les sandales aux pieds, pour qu'il doit les manger entièrement pour qu'il ait la force de sortir de l'esclavage, de traverser la mer Rouge et d'accéder à la liberté. Donc la Pâque, c'est Dieu qui nourrit son peuple pour que son peuple ait la force de sortir de l'esclavage. C'est Dieu qui nourrit, qui prescrit. Il faut tout manger. Il n'y a rien de faire dans l'Exode 12. Il n'y a pas un pet de graisse, je vais dire, qui est offert à la divinité. Il faudra attendre le Deutéronome. Il faudra attendre la centralisation du culte à Jérusalem pour qu'on ait à ce moment-là une part qui est offerte de l'agneau à la divinité.
Alors quel eût été le juste parallèle avec Jésus alors?
Jésus, vous voyez qu'il est vraiment l'agneau que Dieu nous donne en nourriture pour qu'on ait la force de vivre, de traverser la mer Rouge, la mort, pour la vivre comme une Pâque, comme un accès à la liberté. Ça change complètement la vision qu'on peut avoir de la mort. Vous voyez? Et c'est Dieu qui nourrit, qui nous nourrit avec son Fils.
Mais ça ne change pas forcément la vision que l'on a du sacrifice du Christ.
Si, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un sacrifice offert à la divinité pour que la divinité devienne bienveillante, la mort du Christ, c'est l'expression de la bienveillance de Dieu qui nous livre son Fils entre nos mains et qui nous dit une miséricorde par rapport aux ennemis, parce qu'il s'est offert aussi à Judas. Dans Jean, il y a tout un discours sur Jésus qui lave les pieds de Judas et qui lui donne la bouchée.
On va y revenir. Je rappelle le titre de votre livre, L'Épître aux Hébreux au regard des Évangiles, paru aux éditions du Cerf, dans la collection Lectio Divina.
Deposuit, potet est desse, deposuit.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'Épître aux Hébreux au regard de l'Évangile, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Martin Pochon, qui est religieux jésuite, prêtre et bibliste et auteur donc d'un ouvrage du même nom, paru aux éditions du Cerf dans la collection Lectio Divina. Ouvrage ambitieux, émission aussi peut-être ambitieuse, peut-être trop pour certains, mais il faut dire qu'il faut argumenter, puisque c'est rien moins peut-être que la manière qu'a l'Église de parler de Dieu, en partie, qui est en jeu, c'est dire donc quand même la profondeur du propos. Alors si on vous suit, Martin Pochon, dans la lecture de cet ouvrage, on peut dire aussi que le grand public peut se le procurer, mais il est invité comme moi à en lire surtout l'introduction et la conclusion, qui lui seront à peu près accessibles. Vous dites que ça peut changer quelque chose pour nous, dans le fond. La première chose que ça peut changer, c'est notre regard sur l'obéissance. Alors que c'est vrai que quand on est chrétien et pratiquant, on regarde Jésus pour essayer de lui ressembler, et on peut avoir une mauvaise vision dans ces cas-là de l'obéissance, à vous entendre. Alors vous avez cette phrase, l'obéissance ou la mort, l'obéissance dans la mort. Pourquoi cette nuance ?
Parce que l'Épître aux Hébreux manie la carotte et le bâton. On pourrait dire ça, hein, pédagogie assez de base, on va dire. C'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux dit, si vous êtes obéissant, eh bien, Dieu vous accordera le bonheur éternel. Vous pourrez rentrer à la suite du Fils, au-delà dans le Saint des Saints, enfin, au-delà du voile des apparences, pour rentrer dans le bonheur, dans la plénitude, dans l'accomplissement. Bon, voilà. Donc il y a bien une obéissance qui est manifestée, mais je vous dis, elle est prise comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'on a l'impression...
Rappelez dans l'Épître aux Hébreux peut-être les passages les plus choquants, dis-je quoi ?
C'est-à-dire qu'il l'a conduit à la perfection par des souffrances, et où il a été obéissant jusqu'à la mort, malgré ses supplications, il a offert à Dieu ses supplications, et il a été, pour échapper à la mort, mais il a été exaucé finalement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est soumis jusque dans la mort à Dieu, et donc Dieu l'a exaucé, et maintenant il siège à la droite de la divinité, quoi. Mais on voit que au fond la mort est une épreuve d'obéissance, alors que bon, d'après les évangiles, la mort est la manifestation d'un don inconditionnel de Dieu aux hommes, pour dire une bienveillance inconditionnelle.
D'où la nuance, l'obéissance ou la mort, et l'obéissance dans la mort.
Eh bien, ça, c'est le... Oui, mais je dirais que l'Épître aux Hébreux, c'est les deux à la fois, quoi. Hein, c'est l'obéissance dans la mort, et pas... Si on désobéit, c'est la mort, et puis il faut obéir, y compris dans la mort, quoi.
Mais alors, enfin, la bonne expression qui a
suscité quoi ? L'expression, c'est que le Christ, lui, a fait la volonté de Dieu en se donnant, en se livrant aux hommes, en manifestant un amour aux hommes inconditionnel. Résultat, c'est que les ennemis, ma foi, ont utilisé cette bienveillance, ont profité de cette bienveillance et de cette non-violence pour mettre la main sur le Christ et le tuer. C'est-à-dire que les ennemis ont une responsabilité dans sa mort et dans ses souffrances, une responsabilité des ennemis qui n'est jamais évoquée dans les 10 premiers chapitres de Hébreux, où les ennemis n'ont pas de rôle, si ce n'est que de faire vivre au Christ une épreuve d'obéissance. On a ça à la fin de l'obéissance, c'est une fin dans Hébreux.
Voilà. Alors qu'à vous entendre, en fait, l'obéissance du Christ, ça a été de manifester jusqu'au bout qui est vraiment Dieu.
Absolument. Qui voit le Fils voit le Père, quoi. Or, dans Hébreux, c'est ça qui est peut-être le plus redoutable pour moi, c'est qu'on a un visage du Père qui est un Père extrêmement exigeant, qui impose une obéissance inconditionnelle à son Fils, quel que soit le prix, voilà. On a un visage du Père qui est redoutable. qui n'est pas celui du Fils. Le Fils, dans Hébreu, comme dans toutes les théologies, il est magnifique parce qu'il accepte tout, il supporte tout, il endure tout, il veut le bien de tous. Enfin, voilà.
Et pourtant, le Christ dit lui-même qui me voit le Père.
Or, voilà, qui voit le. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans Hébreu, on n'a pas cette image du Père. On a une image du Père qui est celui qui, si on n'obéit pas, exerce la vengeance. Vous avez une citation là dans l'Épître aux Hébreux qui est redoutable, qui a été utilisée pendant tout le Moyen-Âge pour faire peur aux gens. Pour leur, vous savez, Delumeau a écrit un livre qui s'appelle La peur. En Occident, la peur au Moyen-Âge.
Grand historien
médiéviste, et disait cette citation « À moi la vengeance, c'est moi qui châtirai », eh bien, ça revenait comme un leitmotiv dans mes lectures de cette époque jusqu'à l'écœurement, quoi. Hein.
Ouais. Alors, deuxième point, c'est que ça changerait notre regard justement sur les ennemis, sur nos ennemis et sur ce que le christianisme vient nous dire. Vous dites à un moment, il faudrait reprendre et développer une théologie de la relation aux ennemis.
Ben voilà, c'est-à-dire que, comme dans l'Épître aux Hébreux, les ennemis, ce sont ceux qui sont anéantis finalement, quoi. Anéantis. Les châtiments qui s'abattent sur eux sont pires que ceux qui se sont abattus sur les Hébreux dans le désert quand ils ont murmuré, vous savez, leurs cadavres jonchaient le sol, il est dit dans le livre des Nombres notamment, et puis l'Exode. Bon. Là, on a une figure de Dieu qui réduit en poussière, on va dire, les ennemis. Alors que les évangiles nous disent que les ennemis, c'est d'abord peut-être des gens dont on peut espérer la conversion. C'est dit de façon symbolique, mais très forte quand même, lors de la passion du Christ, le premier à se convertir, c'est le bourreau. Le bourreau qui est le centurion romain qui, voyant que le Christ était ainsi mort, s'écrit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu hein ». Donc on a un archétype, là, une figure ramassée du salut, c'est-à-dire que l'acteur même de la mort du Christ, l'ennemi, l'exécutant, le bourreau, eh bien, c'est celui qui a lui aussi un cœur et qui est susceptible de se convertir. Voilà. Et c'est toujours ce que les apôtres ont voulu manifester ensuite. Paul, bien sûr, aussi, il a voulu témoigner, il a témoigné.
Il en est mort.
Et il en est mort. Et ressuscité, je pense.
Puisque lui aussi, donc, est mort martyr.
Comme dans le sein de Dieu.
Comme Pierre. Dernier point, vous dites aussi que ça peut changer notre regard sur le mal et les souffrances, non plus vues comme des épreuves pédagogiques, ça traîne encore un peu dans le fond de notre conscience, mais alors comment ?
Ben, vous voyez que si les souffrances que le Christ a vécues proviennent de sa bienveillance de fond vis-à-vis de ses ennemis, c'est-à-dire plutôt mourir plutôt que les tuer, quoi, hein, ou plutôt subir cela plutôt que d'entrer en guerre.
Et le subir pour eux.
Pour eux, oui, oui, c'est ça. Il est mort pour nous, hein. D'ailleurs, l'expression, moi, je souscris tout à fait à cette expression-là. Il est bien mort pour nous, il est mort pour nous sortir du péché. Et notamment, c'est un peu paradoxal, mais justement, il est venu nous sortir des... Quelle est la racine du péché ? La racine du péché, c'est de croire que Dieu est méchant et qu'il ne veut pas que nous participions à sa propre vie. Il est clair que la scène nous dit que Dieu veut que nous participions à sa propre vie. Il se remet entre nos mains. Il est notre nourriture. Il veut que son sang coule en nos veines, quoi. Enfin, la scène, quand il prenez, buvez-en tous, vous voyez. Et la scène nous dit, par cette bienveillance-là, nous dit un pardon. Parce que, identiquement, le fait de se livrer entre les mains de quelqu'un, de se remettre entre ses mains, il n'y a pas plus grand pardon et plus grande bienveillance. On ne se donne pas à quelqu'un pour lequel on garde de la rancœur. Je crois que les couples le savent, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de réconciliation que dans le don mutuel. Mais s'il y a don mutuel, ça veut dire qu'il y a eu pardon. Il y a eu pardon. Voilà. Et le Christ nous dit, à travers le don qu'il nous fait de sa vie, le pardon définitif. Le pardon. À nous, il se donne à nous. Hein, et il exprime le pardon du Père.
Donc je repose ma question, quel nouveau regard ça porte
sur la souffrance.
Sur la souffrance.
Ben vous voyez, la souffrance fait partie du chemin... pour que les ennemis s'ouvrent à l'amour, quoi. Le royaume est déjà là, mais pas encore accompli. Alors là-dessus, l'Épître aux Hébreux a bien raison de le dire, qu'il y a déjà là, un pas encore. Hein. Enfin, l'accomplissement n'est pas encore réalisé, mais on le devine. Bah. Donc, la souffrance devient forcément fait partie de la création qui n'est pas achevée et d'un royaume qui n'est pas encore là, quoi. Hein? Donc il faut surmonter ces souffrances, les traverser, même être traversé par la souffrance, éventuellement, mais pour être fidèle à un amour, pour être fidèle à un
non
amour.
Pas comme une épreuve, mais comme une fidélité, c'est ça?
Évidemment, face aux souffrances qui se manifestent, face à l'adversité, il y a bien une épreuve de l'homme. Mais vous voyez, ça fait partie du mouvement global où il s'agit de vaincre le mal par le bien, comme dit Paul. Hein, vaincre le mal par le bien, c'est forcément une épreuve par certains côtés. Mais il ne faut pas croire... Évidemment, c'est l'occasion d'affirmer un amour qui est supérieur encore à cette souffrance, qui est plus grand que cette souffrance, on va dire. Hein, l'espérance, c'est qu'un jour, il n'y ait plus cette souffrance. Parce qu'on aura participé à l'œuvre de Dieu et qu'on aura permis à l'amour de transformer les choses, quoi.
Martin Pochon, c'est un livre donc ambitieux, on l'aura compris pour ceux qui seront allés jusqu'au bout du propos. Vous avez conscience que vous bousculez, vous mettez un pied en travers de la porte, vous en êtes jusqu'à demander une réforme un peu liturgique à la fin?
Oui, puisque je vous disais, je trouve qu'on est resté au milieu du guet. Mais en même temps, et j'ai beaucoup échangé avec des amis théologiens. Hein. Enfin, j'ai échangé aussi avec des gens qui ne partagent pas mon point de vue, avec notamment un compagnon jésuite qui est à la Grégorienne, qui a écrit un très beau livre, un gros livre.
Donc,
sur toutes les
anaphores
de Rome, qui a écrit un beau livre sur toutes les anaphores, toutes les prières eucharistiques depuis le commencement. Voilà. Et quand je lui ai posé ces questions, il m'a dit, écoute, je sais que je ne suis pas d'un point de vue majoritaire, mais je continue à maintenir que le Christ s'est offert sur la croix à Dieu son Père, quoi. Vous voyez ? Mais en disant, je sais que je ne suis pas majoritaire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partagent le point de vue que j'ai présenté là, enfin, me semble-t-il. Il est gros ce livre, en dehors de l'introduction et la conclusion, pour que justement ceux qui veulent aller voir les raisons techniques puissent aller voir, trouver les raisons techniques.
Hein. Eh bien, on va les renvoyer à la lecture.
Mais en même temps, voilà.
L'Épître aux Hébreux, au regard des Évangiles, c'est votre ouvrage, paru aux éditions du Cerf, collection Lectio Divina. Merci beaucoup Martin Pochon.
Merci à vous.
À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter ce soir cette émission à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.